Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un journal intime, on y écrit chaque jour, mais ce n'est pas une obligation. Et l'on peut se relire de temps à autre. Pourquoi donc se relire ? La relecture peut être un exercice troublant, gênant, voire terrible. Peu importe. Puisque l'on tient un journal intime, uniquement pour soi, a priori, il faut bien que ce journal bénéficie de temps à autre d'une lecture, d'une relecture, par son propre auteur et propriétaire. À la fin des années 90, Christophe Deleu avait consacré deux nuits magnétiques aux journaux intimes et aux impressions intimes. La première de ces deux émissions a été diffusée la nuit dernière sur France Culture. Voici le deuxième volet de cette série. Première diffusion sur France Culture le 20 janvier 1999.
Nuit magnétique, bonsoir.
J'ai retrouvé ces journaux que j'avais complètement oubliés dans mon dernier déménagement. Et alors je les ai vite parcourus en me disant, tiens, ils existent encore. Je les ai mis sur un coin, dans une bibliothèque, sur une étagère. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a ma fille qui, en recherchant les recettes de cuisine, est tombée dessus. Alors elle m'a dit, mais t'as fait des journaux intimes ? Alors j'ai dit, oui, mais enfin, quand même, ne les regarde pas. Hein.
Journaux intimes, impressions intimes, par Christophe Deleu et Anne-Pascale Dévigné.
Alors j'ai regardé la date, c'était en 62, je devais avoir 17 ans. J'ai continué d'écrire, alors ça m'a fait un peu penser à l'espace entre cette période-là, donc quand j'avais 17 ans et maintenant j'en ai 53. Je me suis quand ça a un peu transformé dans cet espace-là, puisque depuis une dizaine d'années, c'est plutôt des poèmes que j'écris. Et je n'ai pas fait spontanément la liaison, mais en relisant dernièrement, puisque ma fille finalement m'avait réinterpellée, on a relu quelques passages ensemble, et il y a quand même toute une, toute une histoire continue entre le journal intime et les poèmes que j'écris actuellement.
« 20 janvier 1999, j'écris, deux points, avant de cesser d'écrire mon journal intime, relecture de certains passages, ceux de 1993 par exemple. » J'ai 24 ans, le journal a changé. Abandonné les feuilles Bristol volantes. Je choisis un carnet Clairefontaine, 7,5 sur 12 cm, 120 pages. Il s'appelle Solitude Standing, histoire de hérisson. Recherche de la vérité, haine des faux-semblants. En exergue, cette phrase de Jacques Rivière, l'important est de ne pas faire de littérature dans notre vie.
Ça fait à peu près une dizaine d'années où j'écris des poèmes sur ce que je vis, sur mes sentiments, surtout mes relations avec les hommes, ma famille, des situations dans lesquelles je me mets et qui sont très bouleversantes finalement. Et puis Ça m'aide à être très présente à moi-même. Et c'est un petit peu ce que je découvre quand j'ai relu ces journaux intimes. Et ce qui m'a lancé au départ, ce qui a fait que j'ai fait un journal intime, c'était ça. C'était me retrouver avec moi-même, exister à partir de moi. Et je disais première ligne, je venais de lire le journal d'Anne Frank et je disais j'ai décidé de commencer un journal C'était le 3 novembre 63. Ce qui m'a influencé, c'est de lire le journal d'Anne Frank. Et je regrette vraiment de ne pas avoir commencé un journal avant. Je trouve que cela peut être très profitable pour nous-mêmes, pour mieux nous connaître et pour même essayer de nous corriger. C'était un peu la dimension, disons, à l'époque, j'étais très, très influencée par la religion. Et ça, c'était vraiment, très rigide et très... c'était une ligne dans laquelle j'étais enfermée au niveau de la moralité, au niveau... Et le fait d'avoir donc lu ce journal d'Anne Frank, pour moi, je pense, était une porte un peu d'ouverture, d'une fenêtre vers réellement moi-même et non pas tout ce qu'on avait pu culturellement, m'inculquer ou disons, me réduire. C'était une porte d'ouverture.
Je continue à tourner les pages de mon journal intime. 5 décembre 1994. J'écris. Prendre des mesures pour ne plus répéter les erreurs du passé. Cesser de croire que le bonheur n'est pas fait pour moi. Éviter de tout dramatiser. M'imputer la responsabilité de chaque échec pour progresser. Enfin, comme l'écrit Rivière, tendre vers la simplicité.
J'écris sur des cahiers, des petits cahiers. Des petits cahiers assez gros, le premier 196 pages. Mais il y a beaucoup d'illustrations, notamment de Johnny Depp. Je collais les images que je trouvais dans les magazines ou des interviews, ce genre de choses. Bon, mais le cahier s'est terminé et j'en ai commencé un autre. Et donc là, actuellement, j'en suis à mon 15e. Avant, je devais les mettre dans mon tiroir, mais depuis, je les ai rangés dans un carton, dans mon armoire. Tout le monde peut aller voir, mais personne n'y a été parce que ma chambre est... Il y a un gros stop interdit d'entrée, donc personne n'entre dans ma chambre. C'est mon espace privé, ça n'appartient qu'à moi. En fait, je n'en ai jamais parlé autour de moi, parce que j'avais compris que c'était quelque chose donc, d'intime. Est-ce que j'en avais honte ? Non. Mais personne autour de moi ne parlait de ce genre de choses. Bon, je savais que certaines personnes avaient aussi cette manie, c'est une sorte de manie, quoi. Mes histoires d'amour tiennent une place immense. ça paraît un peu banal peut-être de dire ça, mais c'est ce qui compte le plus dans ma vie, en fait. Et je n'ai jamais eu, pour l'instant, de relation très, très grande, quoi. Je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie, j'en suis certaine. Je ne suis pas passée à côté. Mais oui, ça tient une place énorme dans mes écrits, dans ma vie. Donc c'est ce que j'écris le plus, effectivement. Quoi. Mes histoires d'amour. J'en ai eu beaucoup. Je ne les ai pas compté, mais je sais que j'en ai eu beaucoup. Et depuis que j'ai 15 ans, en fait, ça n'arrête pas, quoi. Mais quand je dis histoire d'amour, c'est pas forcément sortir avec quelqu'un. C'est ressentir quelque chose pour cette personne. Et malheureusement, dans la plupart des cas, la personne ne ressent rien pour moi, quoi. C'est ce qui fait la force, en fait, de cette histoire, quoi. La plus longue histoire d'amour que j'ai eue a duré un an et demi. Elle s'est terminée il y a juste un an. Et depuis, rien. Là, c'est le désert. Un désert sentimental complet. Mais bon. Donc, les histoires d'amour, quoi. Mais non, j'ai effectivement... généralement, quand je prends la plume, c'est que ça va pas. C'est pour me défouler, pour me décharger émotionnellement sur le papier. Mais pour vous dire, oui, si on écrit le bonheur, oui, quand même.
10 janvier 1999. J'écris « Rendez-vous chez Amandine ». Une maison en travaux. Au rez-de-chaussée, plus aucun mur. Le sol est en terre. Amandine nous invite à monter au premier en empruntant un escalier très étroit. Faire attention de ne pas glisser. Toutes ses affaires ont été entassées dans une petite pièce. On se demande où s'asseoir, où poser les manteaux. Sur le lit, des dizaines de cahiers ont été superposés. Deux chats se réveillent.
Bon, c'est mon gros matou qui a sauté sur le magnétophone. Alors, il y a peut-être un loupé, là. Mes chats se demandent ce qui arrive. Alors, donc, un extrait. Quand j'étais adolescente, mes journaux intimes étaient remplis de dessins, d'images découpées, de photos, pas seulement de Claude François, mais de tout ce que je pouvais trouver d'intéressant. J'y ajoutais aussi... Pardon. J'y ajoutais les brouillons des lettres que j'envoyais et puis les lettres que je recevais. Je montrais ce dessin-là. C'était une cage avec dans cette cage un oiseau qui en plus est enchaîné à l'intérieur de la cage avec une chaîne autour du cou. Et en dehors de la cage, il y a un trousseau de clés. Et de l'autre côté de la page, j'ai dessiné la même cage ouverte, la chaîne cassée, l'oiseau qui s'envole. Ça, c'était quand j'étais dans le troisième foyer où j'étais placée et où on avait des éducatrices qui étaient des vieilles filles très sévères. Voilà. J'ai conservé mes journaux depuis le premier cahier entier que j'ai conservé date de 65. Et bon, le dernier est en cours. J'ai encore écrit aujourd'hui dessus.
Voilà. Il y a combien de volumes ?
Là, je suis arrivée au numéro 50. Là, j'ai des cahiers des années 60 avec les couvertures que l'on connaissait à l'époque. J'ai eu aussi à un moment donné mis des protège-cahiers.
On voit Claude François.
Oui, j'étais une fan de Claude François, une inconditionnelle à Clo-Clo. C'était dommage qu'il ne soit plus là. Mais bon, le souvenir qui reste. Et... voilà. Je continue à écrire, toujours. Mais j'avais commencé à écrire bien avant. Seulement, j'étais dans un milieu assez répressif, où on était étroitement surveillés et par des personnes qui n'étaient pas allées longtemps à l'école, donc qui ne comprenaient pas toujours les choses bizarres que l'on pouvait écrire.
C'était votre famille ?
J'étais en institution, mais j'ai été aussi tantôt dans ma famille, tantôt en institution. Et puis, de toute façon, les adultes étaient très répressifs à cette époque-là, un petit peu partout. Parce que, vous situez l'époque avant mai 68, avant toute cette révolution de l'être, des idées. Maintenant, on ne brime plus les enfants comme on faisait autrefois. Et... bon, voilà.
Et ça veut dire qu'on a pris à un moment donné votre journal quand vous étiez dans cet institut ?
Oui, à différents moments. Enfin, c'était pas... j'écrivais surtout sur des feuilles volantes à l'époque. Et puis, bon, soit c'était lu par des camarades qui se moquaient, soit bon, c'était réprimé, c'était brûlé, c'était... enfin, et puis, de toute façon, j'avais peur qu'on se moque de moi. Et puis, il est arrivé quelque chose d'assez traumatisant à une camarade qui, elle, avait un journal intime aussi. Une éducatrice lui avait pris pour le montrer au juge des enfants. Or, elle était plus âgée que moi, cette camarade, et elle était assez... elle parlait assez franchement des choses très intimes de sa puberté, de son adolescence. Et ça a été un choc horrible pour elle. Alors, moi, j'ai fait très attention de ne pas écrire n'importe quoi sur mon journal à cause de ça. Et j'ai eu une autre amie. Bon, elle n'était pas dans le même établissement que moi, mais elle m'a raconté qu'à 15 ans, elle, ce n'était pas un journal intime qu'elle avait écrit, c'était un roman policier. Et bon, dans les romans policiers, il y a toujours un meurtre, si ce n'est plusieurs. Et ça avait beaucoup choqué les religieuses qui avaient trouvé ça, qui l'avaient très sévèrement punie. Elle brûlait son roman et elle est restée très traumatisée aussi. Bon, quand je l'ai revue, elle avait une trentaine d'années. Et elle avait une petite chambre pas plus grande que celle-ci, avec quelque chose comme 5 ou 6 000 romans policiers, du sol au plafond, sur des étagères partout. Elle était devenue dingue de ça, elle avait fait une fixation là-dessus. Parce qu'il lui était arrivé ça. Alors bon, je vais peut-être un peu résumer l'histoire de mon journal. Là, j'ai donc toujours eu cette peur qu'il soit lu par des gens trop bêtes pour comprendre. Et effectivement, ça m'est arrivé au début de ma vie d'adulte. Bon, il y avait un gars qui s'était invité chez moi, qui s'était hébergé en quelque sorte. Il avait trouvé mon journal, là, avait lu à ses copains de bistrot qui rigolaient, qui s'étaient moqués de moi. Bon, faut dire que c'était peut-être pas des gars très intelligents. Et faut dire aussi que moi, étant donné mon enfance difficile, j'avais peut-être une certaine immaturité qui transparaissait dans ce journal et dont ceux qui avaient plus de chance se moquaient, quoi. Pour ça, j'ai toujours cherché à le cacher.
Mais la religion, je suis en train de réfléchir là-dessus finalement. C'est que elle m'avait dicté. Elle m'avait dicté mon comportement, dicté des sentiments, dicté tout. En effet, un comportement que je trouve vraiment très grave parce que quand je vois mon attitude avec les garçons, parce que dans le journal intime, ça reprend toute. Mon questionnement par rapport aux garçons quand je les rencontre, est-ce que je dois les embrasser, pas les embrasser, qu'est-ce que c'est écrit bientôt dans la Bible, comment je dois faire, qu'est-ce que Dieu me dicte, enfin c'est du délire, à la limite j'aime mieux pas en parler, je trouve ça tellement gros, c'est la honte quoi. Oh oui, non mais c'est trop, je sais plus dans quel... Quelle phrase, il y a un truc. Je tombe plus sur la phrase où j'ai pu dire. En effet, un garçon me dit parce que bon, ah oui, c'était ça qui était grave, c'était que je rencontrais des garçons qui n'avaient pas la foi. Alors ça, c'était l'horreur, quoi. Comment est-ce qu'on peut être en relation avec un garçon qui n'a pas la foi. Alors, pour moi, c'était... je ne peux pas envisager, en effet, une relation continue, profonde, entière, parce qu'on n'est pas branché sur les mêmes valeurs. Maintenant, c'est horrible quand je lis un truc pareil...
La dernière histoire d'amour qu'elle a écrite dans le journal.
Alors donc, celle qui a duré un an et demi s'est terminée il y a un an. J'ai cru au début de notre histoire que c'était l'homme de ma vie. Non, ce n'était pas lui. Mais donc bah là, j'écrivais régulièrement quand on se voyait, ce qui se passait entre nous. Et puis quand ça a commencé un petit peu à se dégrader entre nous deux. Bon, bah là, je réfléchissais pourquoi, j'essayais de voir si je pouvais pas un petit peu récupérer notre histoire ou changer un peu de comportement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de nous deux. Donc, j'essayais d'analyser tout ça. Mais en fait, ça n'a servi à rien puisqu'on a quand même rompu. Bah, maintenant, ce sentiment me fait un peu peur, quoi. Parce qu'à vrai dire, j'ai assez souffert hein, de l'amour, quoi. À l'âge de 15 ans, j'ai vécu une histoire d'amour qui a failli mal se terminer pour moi. J'ai fortement pensé à me suicider. Donc, je ressentais des sentiments très forts pour cette personne. Et cette personne n'avait cure de moi, quoi. Donc, je l'ai très mal vécu. Et j'ai été sauvée, en fait, par ma mère qui m'a un petit peu ramenée à la réalité. Et en plus, cette personne, je continue de la rencontrer dans la rue, puisque nous vivons à quelques pas l'un de l'autre. Donc oui, à l'âge de 15 ans, j'ai vécu une histoire d'amour très forte. Donc j'écrivais là-dessus, en fait, aussi beaucoup. À chaque fois que je le voyais, je l'écrivais. Comment lui me regardait, comment moi je le voyais. Et en plus, après, ça s'est poursuivi parce que donc nous avons été dans le même lycée. En seconde, nous avions deux cours en commun, le cours d'espagnol et le cours de sport. Donc en sport, j'étais totalement tétanisée, je pouvais plus rien faire. J'avais trop peur qu'il me voie dans des situations. Alors là, en gymnastique, c'était une catastrophe, je pouvais plus rien faire. Je le regardais en plus faire de la gymnastique. Les copines pouvaient passer leurs mains devant mes yeux. Non, je le faisais que de le regarder, quoi. En plus, à cette époque-là, j'avais une façon de regarder les gens très... Oui, j'avais un regard très noir. Je n'hésitais pas à fixer mon regard dans le regard de l'autre. C'était effrayant. Même pour moi, parce qu'à la limite, je savais que je faisais du mal à cette personne en la regardant comme ça intensément. Je n'ai pas perdu cette habitude. Quand quelqu'un en bas, je regarde avec mon regard noir. Donc j'écrivais tout ça, quoi. J'écrivais tout ce qui nous arrivait dans le bus, puisqu'on habite il habite le bâtiment d'à côté. Donc on prenait le même bus, on avait à peu près les mêmes horaires de cours, donc on se voyait vraiment souvent. C'était une catastrophe pour moi, quoi. Bon, je suis toujours en vie, je n'ai fait aucune tentative de suicide, heureusement. Mais ensuite, j'ai eu une autre histoire d'amour semblable à celle-là. C'est comme, en fait, si je les recherche, quoi. Je les recherche, ces histoires-là. Je les recherche. Je tombe toujours amoureuse, généralement, de personnes qui ne m'aiment pas. Donc j'ai quand même pas mal de choses à analyser par rapport à ça. Donc j'ai continué d'écrire là-dessus. Quand je voyais la personne, j'écrivais dans quelles conditions c'était. Si on s'était parlé ou pas, si on s'était regardé intensément ou pas. Ce genre de choses donc compte beaucoup pour moi. Et continue actuellement de compter hein, pour moi. Mais bon, actuellement, je n'ai plus... Je n'ai pas de copain et à la limite, je n'ai aucun copain en vue, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que, effectivement, la personne que je regarde, je sens qu'elle ressent quelque chose pour moi. Haine ou amour, je n'en sais rien. J'espère que c'est de l'amour, mais malheureusement, je sens plus que c'est de la haine. Bon, là, j'emploie deux mots qui sont assez forts, mais parce qu'en fait, c'est ça, quoi. Bon... Étant donné que moi, je l'ai regardée d'une façon étrange. Une fille qui, comme ça, qui regarde sans rien faire, droit dans les yeux. Bon, quelque part, c'est étrange et ça dérange, quoi. Mais je sais que ces deux personnes-là, ces deux garçons-là, m'ont envoyé une image peut-être négative de moi-même, puisque aucun amour partagé. Et est-ce que l'écriture faisait que je m'attardais sur ces deux histoires-là? Oui, bien sûr. C'était une sorte de plaisir masochiste, en fait, à continuer de souffrir comme ça. Et oui, l'écriture a entretenu ce genre de relation, j'allais dire. Parce que les personnes, je les voyais, je les côtoyais. Donc oui, bien sûr. La réalité de l'histoire, c'est celle de mon écriture, effectivement, quoi. L'histoire d'amour, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai écrit. Puisque de toute façon, ces personnes-là ne m'ont jamais rien écrit, à la limite, ne me parlaient même pas, quoi. Donc, en fait, ça m'occupait d'être amoureuse de cette façon-là, quoi. Étant donné qu'il ne m'est jamais rien arrivé d'exceptionnel dans ma vie, je ressentais ça comme une grande aventure à la découverte de moi-même par ces deux histoires-là, quoi. Alors ça aurait pu très mal se finir, puisque j'avais des idées très très noires. J'écrivais carrément leur mort, quoi. Donc j'écrivais la mienne par la même occasion. Donc oui, je suis arrivée à un stade presque... Bon, de non-retour peut-être pas, parce que les gens autour de moi m'aiment et me soutiennent. Mais moi, effectivement, je m'enfonçais dans ce genre de plaisir, j'allais dire sadique. Mais bon, ça n'allait pas loin, puisque ce n'était que des mots tracés sur une feuille.
Janvier 1994, j'écrivais « Toujours l'amour du ratage, aussi délicieux. Plaisir de me dire, ce soir, qu'avec A, ça aurait pu marcher. Et de rentrer chez moi, seul, héroïque, fier d'avoir évité une nouvelle fois la facilité. »
Voyons. Alors là encore, je mets comme je regrette de ne pas avoir eu une maman propre et vêtue avec soin. Et là, je montre une photo d'un intérieur normal avec le père, la mère, les enfants.
Une photo de catalogue ?
De catalogue ou de magazine, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'avais vu ça. Mais voyons un petit peu ce que je... Attendez, j'arrive pas à retrouver où c'était. Il y avait des endroits où il y avait des traces de trombone rouillé. Je ne sais plus du tout où c'est. Ah, c'est... Voilà, c'est ici. Alors ça, je vais carrément le lire parce que c'était intéressant. Bon, ma mère était handicapée et elle vivait dans un taudis sordide dont j'ai mis deux photos ici. J'ai mis en comparaison les photos d'un intérieur normal. Ah, et bon, on voit une grande pièce très spacieuse avec au fond une bibliothèque, avec des fauteuils, des tapis, quelque chose de clair. Les murs sont blancs, enfin c'est beau quoi. Je rêvais d'habiter un truc comme ça. Et bon, c'est peut-être un petit peu long à lire. Il fait un temps splendide ce matin, mais il fait froid. Tout ce que j'ai envie de dire, je le note sur ce cahier, car je suis seule dans cette pension. Ce que j'appelais une pension, en fait, c'était une sorte de foyer de religieuse où on m'avait placée. Je n'ai pas de famille et personne à qui vraiment confier le fond de moi-même. D'ailleurs, je n'ai jamais eu quelqu'un pour me comprendre tout à fait. Mes parents m'aimaient beaucoup, mais ils étaient illettrés. À partir de l'âge de 6 ans, j'étais déjà beaucoup plus instruite qu'eux. Je ne pouvais pas leur dire mes soucis. Ils étaient incapables d'y remédier. Ah, comme je regrette de ne pas avoir eu une maman comme les autres. Une maman qui aurait tenu la maison propre et coquette. Qui n'aurait cuisiné mes repas comme le font toutes les autres mères. J'aurais bien aimé, quand dans un groupe de personnes on me demandait de montrer ma mère, au lieu de désigner cette dame sale et mal vêtue en guenilles, de montrer une femme propre, bien coiffée, habillée avec goût. Moi-même d'ailleurs, j'étais mal habillée. Je vivais dans un taudis qui est représenté sur les deux photos de la page ci-contre. Quand j'étais petite, ma mère et moi nous ramassions dans les poubelles et cela faisait plus sale encore. Je n'avais comme nourriture que du pain, du beurre et des patates à l'eau. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, après c'est tout, je parle d'autre chose. Voilà.
Il y a des petits dessins, enfin, vous soulignez des traits en vert.
Où ça ? Ici, là. Je fais des frises avec des crayons de couleur, je dessine des frises, je dessine des choses en marche. Bon, là, je faisais toutes les semaines mon emploi du temps et je signais quand j'avais accompli tout ce qui était écrit. Je barrais ce que je n'avais pas eu le temps de faire. J'ai des photos de Claude François à toutes les pages parce que j'en étais dingue à l'époque. Et puis, ça, c'est à peu près... pour mon journal d'adolescente, parce que bon, là, on est arrivé dans les chiffres inférieurs à 10, et puis, comme j'en ai 50, il faut que je passe vite à la suite, autrement, je ne vais jamais y arriver. Alors, j'ai été très marginalisée par tout ce que j'ai vécu, et donc, j'étais complètement en dehors de tout. Et comme la réalité était trop difficile à vivre, et ben je me réfugiais dans l'imaginaire. Et il m'arrivait, quand j'en avais le temps, d'écrire cet imaginaire dans des cahiers. Et alors, j'ai eu ma période soucoupe volante, j'ai eu ma période fantôme, j'ai eu ma période monstre frère siamois, j'ai eu différentes périodes, comme tel peintre a eu sa période bleue ou sa période fauve.
Et dans ces poèmes que j'écris actuellement, je pars de cette impulsion qui, à un moment donné, est moi, et qui part souvent d'un sentiment, c'est vrai, de tristesse. Souvent, ça repart de... Dans ce journal intime, c'est les cafards de l'adolescence, cafards de mal-être, etc. Et je trouve qu'on continue, enfin je continue à par moments à être dans un état, mais bon, qui se rapproche plus à une tristesse. Et à partir de ce moment-là, je retrouve en moi le fond de moi. Et dans ces poèmes, je vais le chercher, je repars de là et je me fonds un peu dans comme ça la matière qui m'entoure. J'ai fait un poème sur les vagues parce que j'avais été en bateau et je faisais de la voile et j'ai passé donc une semaine formidable. Je n'ai pas écrit, enfin je veux dire, c'était bien. J'avais une relation, on était un groupe de 5-6 personnes. Et alors, quand je suis rentrée dans ma campagne et que je me suis retrouvée comme ça, seule, oh là là, et remontée, espèce de vague à l'âme. Et du coup, je me suis dit, mais oui, les vagues et le vague à l'âme, et ça y est, c'est parti. Je me suis retrouvée quoi, sur ce lieu dans la mer et sur mon vague à l'âme d'en être séparée, quoi, d'espèce de tristesse, de plus être dans un mouvement avec d'autres et de te retourner en moi avec toutes mes limites et ma réalité, quoi. Et ça m'a inspiré un poème... qui est le vague à l'âme. Je peux dire quelques petits mots là-dessus. Ah oui, c'était donc vague à l'âme. Oui, alors ami, aime terre et vague, mer et ciel, vent et nuage, voile au large, flotte au vent. Je suis laissé porter par ce mouvement d'instants vécus avec d'autres et ce retour à soi-même, à sa solitude. Et je crois que finalement, c'est toujours la même chose quand j'étais adolescente et que je vivais intensément les groupes, parce que j'aimais bien la vie de groupe, donc soit j'étais, évidemment à l'école, soit j'étais dans des mouvements de jeunes, soit j'étais dans le sport, et je me retrouvais seule. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais je vais écrire, j'aime pas cette solitude, et je vais écrire comment je suis dans cette solitude, parce que comme ça, j'ai pu me sentir seule. Je vais être avec quelqu'un. Et ça, c'était l'autre aspect du journal, c'est-à-dire le journal est pour moi quelqu'un, finalement. C'est pas du papier, c'est pas un bout de carton, une couverture. Mais c'est un personnage et je l'avais appelé. Je trouve ça marrant, c'est vraiment, j'avais complètement oublié ça. Je lui ai donné un nom. Et je dis. Ah oui, c'est vrai, il faut que je donne un nom à mon journal. C'est bien beau. De parler, de méditer, mais il faudrait que ce soit envers quelqu'un de concret. Je vais choisir un nom qui sera aussi bien masculin que féminin, car j'aimerais avoir une amitié avec un garçon et aussi une amitié avec une fille. Je pense l'appeler Dominique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un nom qui me convient. Et je trouve qu'il est beau. Et le lendemain, donc, 17 mars, je ne sais plus quelle année, je mets « Cher Dominique ». Et je dis « Ma pauvre, tu vois que je n'ai plus le temps de t'écrire, car tu sais qu'écrire prend du temps. Et en ce moment, le temps libre est rare, ou plutôt, disons que je trouve plus utile de lire. » J'ai tort d'ailleurs dans un sens, car il ne faut pas que je perde de vue que quand je t'écris, je te dévoile ma vie et moi-même. Cela me force donc à me connaître et ensuite à remédier à mes défauts. Voilà, ça c'est trop. À toujours remédier les défauts, ça c'est très important. Aïe, aïe, aïe. Bon. Non, ben là, je sais plus, j'arrête un peu.
Janvier 1999. J'écris dans mon journal. Geneviève, je te connais depuis quelques années. Souvenir d'un trajet avec toi en voiture pour se rendre à Bruxelles. Il fait nuit. Tu me dis, je me suis toujours battu dans la vie. Mais finalement, ça sert à quoi de se battre comme cela? J'ignorais à ce moment-là que tu tenais un journal intime.
Tu parlais tout à l'heure de mort, de tes amoureux en quelque sorte. Comment cette mort s'inscrit dans le journal?
Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai 15 cahiers dans lesquels j'écris assez régulièrement. Mais j'ai aussi d'autres écrits à côté. Mais même si ce n'est pas sous forme de journal intime, ce sont quand même des écrits intimes. Et généralement, j'écris ces morts, donc non pas dans mon cahier, mais dans ces autres supports. Donc la mort que j'écris devrait signifier que la personne n'a plus rien pour moi. Enfin, je ne ressens plus rien pour elle, ce qui est faux. Puisque la personne, je continue de la voir et d'avoir toujours quelques sentiments, bon, beaucoup moins forts qu'au début pour elle. Mais je sais qu'en ce qui concerne la première histoire d'amour, j'ai écrit une première mort très 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 sombre. Il n'y avait que la mort, mais ça n'a servi presque à rien, puisqu'ensuite je me suis amusée à en écrire d'autres. Enfin, à reprendre le même texte et à l'améliorer. Donc en fait, c'est devenu une pratique littéraire. J'ai voulu en faire un texte, un beau texte. Un texte, oui, publiable même à la limite. Donc, ces personnes-là meurent d'une façon ignoble. Puisque je leur fais... je les fais souffrir. Autant qu'ils m'ont fait souffrir. Donc c'est... Oui. Donc,
tu peux nous citer un exemple dans le journal?
Alors, en ce qui concerne la deuxième histoire d'amour, je n'ai pas vraiment écrit de mort pour cette personne-là, parce que je l'ai rêvé. Donc ça prouve à quel point ces histoires trottent dans ma tête. J'ai rêvé sa mort. Je peux vous raconter le rêve. Donc c'était à la mer. Je déteste la mer. Une mer très sombre, enfin le ciel était très bas, très gris, la mer était grise. Et j'ai rêvé en fait qu'il se noyait sous mes yeux, qu'il me tendait la main pour que je le sauve, parce que j'étais sur une, sur un bout de terre, une toute petite île minuscule. Donc moi j'étais au sec. Et non, je l'ai laissé couler avec sa main là qui disparaissait peu à peu dans l'eau. Alors bon, quand je me suis réveillée le matin, j'étais un peu mélancolique. Je n'aime pas le terme de tristesse. Je préfère mélancolique. Un terme beaucoup plus joli. Donc j'étais mélancolique. Et lorsque j'ai vu cette personne-là, je me suis reculée. j'étais sous le préau. J'ai vu cette personne arriver. Et je me suis reculée sous le préau pour ne pas voir cette personne-là. Parce que je me suis dit, mince, cette nuit, j'ai rêvé de sa mort. Et en fait, il est toujours vivant. Et donc... Donc voilà.
« 14 février 1994. Pensez à s'occuper de B, l'inviter à l'appartement. Casser ces fameux « je ne vais pas rester longtemps ». En 1999, en relisant ce passage, je m'aperçois que je ne sais plus qui est B, à cause de ma manie de ne pas mettre les prénoms et les vraies initiales dans le journal.
Bon, donc, j'ai un numéro 25 bis. Alors, pourquoi j'ai des numéros bis? Parce que j'avais toujours la hantise que mes journaux sont à lu. Alors, quand je partais en voyage, je partais avec un cahier neuf et je laissais chez moi le cahier en cours. Le cahier en cours portait un numéro, par exemple 25, et là, j'avais emmené en voyage un petit cahier, d'ailleurs, un petit cahier d'écolier, et que j'ai numéroté 25 bis, et qui s'intercale dans le 25. Et on peut retrouver l'endroit où il s'intercale grâce aux dates, parce que chaque passage est daté. Alors, donc, là, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait au numéro 13 ? Ah oui, au numéro 13, je voulais lire quelque chose, parce que, bon, ça m'arrivait de tomber amoureuse d'un garçon, mais de me faire plaquer, ça, c'est pas original, ça arrive à tout le monde. Mais là, bon, j'écris le 18 août 76, mes nerfs sont de plus en plus malades, à tel point que je me sens comme l'électricité parcourir mes membres et que j'ai toujours des mouvements et des tics. Une dame qui me faisait toujours la morale m'a dit que ça fait peur aux garçons et que c'est pour cela que je ne peux en retenir aucun. Hier, en rendant visite chez des gens, j'ai confié cet état des choses à une fille qui était disposée à m'écouter. Je ne me souviens plus de son prénom. Elle n'a que 17 ans, mais est très intelligente et beaucoup plus mûre que moi. Elle m'a expliqué que si aucun garçon ne m'accepte avec ma maladie de nerfs, c'est parce que j'ai eu la malchance de ne rencontrer que des cons. Voilà ce que vous voulez. Bon. Là, j'écrivais en code. Malheureusement, je n'ai plus la grille, je n'arrive pas à me relire.
Pourquoi vous écriviez en code ?
Parce que j'avais toujours peur que ça soit lu par quelqu'un, toujours cette hantise. Et puis c'était probablement quand j'étais en voyage et que j'étais hébergée chez quelqu'un. J'étais hébergée chez une autre dame qui aimait bien faire la morale aussi, alors c'était pour ça. Et voilà, je voulais lire le 25 bis, ça c'est intéressant. Bon, là il y a un autre garçon que j'ai connu en 76 et qui va... Bon, que je vois encore régulièrement, mais avec qui ça n'a jamais, on n'a jamais rien construit, on est resté célibataire chacun dans son coin. Ça fait 23 ans bientôt. Et donc, mais c'est comme ça. Bon, entre lui et moi, il y a toujours eu ses parents. Alors, je vais lire. Ça date du 3 janvier 85. Alors. Quelques jours avant Noël, je suis arrivée, chez ce garçon. Ses parents y étaient. Dès le début, leur présence m'énervait. Faut dire qu'ils m'ont rejetée dès le début. Et j'ai toujours pensé que c'était à cause d'une différence de niveau social ou parce qu'ils pensaient qu'avec mon enfance malheureuse, j'étais trop déséquilibrée pour faire la bru idéale. Moi, je pense plutôt à la deuxième hypothèse parce qu'ils sont psychologues tous les deux et puis donc ils ont trouvé que, bon, avec tout ce que j'avais souffert, j'étais pas au parfum pour me marier avec leur fils. Donc, ça n'allait pas. Ils avaient d'autres ambitions. Bon, alors là, on est donc à Noël 84, soit 8 ans après, plus de 8 ans après. Alors, dès le début, la présence des parents m'énervait. Je n'ai pas l'habitude de partager. C'est vrai, à force d'être seule. Attention de ne pas se promener nu dans l'appartement parce qu'eux sont là. Ne pas manger hors des repas, ça se fait pas. Au repas en famille, je n'osais pas refuser les plats et desserts trop lourds. Indigestes, aberrations diététiques, ces bûches de Noël. Je n'osais pas refuser. Je n'osais pas non plus refuser l'alcool, les apéritifs, et alors que je ne bois jamais. Et il y a eu des mélanges. Résultat, la nuit de Noël, une horrible crise de foie, un mal de tête a donné envie de crever. Et naturellement, le 25 à midi, quand le copain m'a dit qu'on partait encore gueuletonner ailleurs, j'avais totalement oublié ses cousins de la banlieue chic. Moi, qui espérais tant cuver ma gueule de bois et ma crise de foie bien au calme, volet fermé au creux d'un lit douillet. Avec mon mal de tête, j'avais des gestes trop lents et trop maladroits pour me préparer. Les parents du garçon détestent plus que tout au monde être en retard. Sa mère me fit des reproches amers et cinglants, ne voulant pas croire à ma crise de foie parce que j'étais debout. L'ignorante, elle ne sait pas qu'avec une crise de foie plus forte encore, j'ai gravi un sommet alpin de plus de 3000 mètres. Une alpiniste est toujours debout dans les difficultés. Ça, je ne lui ai pas dit. J'ai simplement bredouillé. Je ne connais pas les coutumes et les habitudes d'une vie de famille. Vous ne vous êtes jamais amélioré, répliqua-t-elle d'un ton durci. Depuis que je vous connais, vous n'avez pas changé. Vous ne saurez jamais vivre en société. Et si vous ne faites pas l'effort, tout de même, à 36 ans. Et bon, le garçon, il intervient en disant « Si, si, elle s'est améliorée. » Attendez, j'arrive plus à lire là.
Et Amandine, pourquoi vous écrivez tout ça, ça...
Parce que j'aurais envie un jour de publier une histoire de ma vie ou de quelques extraits comme ça pour expliquer aux autres comment on peut arriver à des drôles de situations quand on n'a jamais été élevé dans un milieu normal. Je voudrais transmettre quelque chose, oui.
Ah oui, une mèche de cheveux. Ben, je sais pas. Ah, ça y est, c'est mes cheveux, ça, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis une mèche de cheveux, là? Bon. Comme ça, il y avait... Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est mes deux frères, toujours. Et il y a moi, voilà. Tenez la tête... Aïe, aïe, aïe. Et alors, on passait des week-ends avec un abbé pour réfléchir sur l'amour. Ah, c'est trop. Ah non, mais c'était l'époque, hein. L'amour vrai, c'est la recherche de celui qu'on aime. Et bébé. Bon, enfin bref, ça m'énerve de regarder ça, on va dire. Bon. Ah, quand même, j'avais commencé, comme dit Saint-Exupéry... Je ne suis pas une fille à coups de foudre. Après, ce qui m'a poussée beaucoup plus à écrire, c'était ma rencontre avec les hommes et tout ce que j'ai pu vivre donc, ensuite avec les hommes. Je n'ai pas envie d'en parler.
C'est dommage.
Oh
non, moi j'attendais.
Bah...
Les hommes d'amitié.
Ouais. Mes amitiés avec les hommes. Oui, j'ai écrit quand même, il faut reconnaître. Là, ça y est, je replonge dans mon histoire. Et ça s'efface quand même. Hein. Il est passé toute une période quand même où j'ai fait, quand j'étais autour de 25 ans, j'ai fait 2-3 enfants. Trois enfants, évidemment, l'un après l'autre. Faudra effacer ça, n'importe quoi. Bon. Donc j'étais pris dans le mouvement du jour le jour. Quoi. Je ne m'appartenais plus tellement et je me suis oubliée pendant pas mal d'années quand même. Autour de 25-35 ans, ça, j'étais pris dans un mouvement. Et alors tout d'un coup, évidemment, je suis retombée les pieds sur terre. Et avec donc tout cet oubli de moi-même. Et j'ai eu besoin de faire le point. Avec moi, mais aussi ça enclenchait des grands bouleversements de relations, par exemple avec mon mari, le père de mes enfants, parce que tout d'un coup je réalisais que bon, je m'étais oubliée. Et donc j'ai toute une période où j'écris des poèmes où j'ai besoin de m'affirmer, où j'ai besoin de qu'on ne m'oublie pas. Oh là là, ici j'ai un poème qui est un poème plutôt qui vient disons d'une solitude profonde. Il s'intitule Moi. Être sensible ne reste pas sur le chemin des vautours. Ça, les vautours, ça doit être sûrement être les hommes, ça. 85. C'était l'époque où, oui, mon mari n'était plus tellement là avec moi. Et alors, j'avais fait, donc, entre autres, un autre poème sur un petit peu la solitude d'être la femme d'un homme qui a choisi une autre femme, quoi, finalement. Mais qui ne sait pas trop, finalement, lui non plus, ce qu'il va faire, quoi. Et alors j'ai intitulé ça « L'homme partagé ». Et il est venu ce soir, pas pour me dire bonsoir, mais bien pour savoir si les choses étaient bien là, comme il le pensait. Les choses, sa première femme et ses premiers enfants, chose qu'il monnaie chaque mois pour entretenir bien-être le sien et celui des autres aussi. Soyons justes. L'argent ne fait pas le bonheur, leur bonheur, mais il y contribue, dit-on. Alors, avec mon porte-monnaie, j'essaie de me faire des petits plaisirs. Ce mal-là passera, me dis-je. Un autre arrivera.
Janvier 1999. Pourquoi arrêter le journal? Cette décision n'est pas brutale. Depuis 4 ans et la rencontre avec M, rien n'écrit de personnel, rien d'intime. Incroyable, aucune trace écrite de cette histoire. Que des comptes rendus de livres, lus pour les études, même pas pour moi. Pardon, journal, de t'avoir exclu de cette façon. Disons que ce n'était pas très amical.
Mes histoires d'amour finissent toujours mal. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, c'est assez terrible, quoi. Et le fait d'écrire entretient ce genre de sentiments, quoi. C'est un malin plaisir, en fait, à écrire, ce genre de choses.
Est-ce qu'il l'entretient ou est-ce qu'au contraire, il t'aide pas quand même à essayer de savoir pourquoi tu fais ça?
En fait, mon journal me sert de défouloir. J'écris tout ce que je pense, tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Mais au lieu de m'aider, j'ai l'impression que ça m'enfonce encore plus dans ce genre de sentiments. C'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, j'écris plus trop. Parce que le fait d'écrire, ça permet de se rendre mieux compte de la situation. C'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à sortir les mots de soi, on a l'impression que ça pourrait nous aider à passer à autre chose. Dans mon cas, non, ce n'est pas ça. Ça entretient les idées morbides que j'ai. Donc, non, ça ne m'aide pas. Bien au contraire. En fait, j'aime écrire. J'ai toujours ce besoin d'écrire. J'ai envie d'être écrivain. Enfin, c'est un grand terme. En fait, j'ai l'impression que je vis ma vie... peut-être dire quelque chose de, de risible, j'en sais rien. D'une façon romanesque. Les histoires qui m'arrivent, j'ai l'impression qu'elles sont tout droit sorties d'un roman d'amour, quoi. Par contre, j'entretiens ce sentiment-là. Et j'ai une sorte de fantasme qui est que je vis sous l'œil d'une caméra. Alors ça, c'est terrible. Mais j'ai l'impression que tous mes faits et gestes, voire mes pensées et mes rêves, sont filmés par une caméra. Et donc, ça m'oblige à vivre une vie, j'allais dire, intéressante. Lorsqu'il m'arrive rien, d'ailleurs c'est dans la majorité des cas, il ne m'est jamais rien arrivé d'extraordinaire dans ma vie, mais le peu d'aventures que je vis compte beaucoup, ça compte beaucoup, puisque j'en vis peu, donc je les grossis, et c'est peut-être plus ce sentiment-là qui fait que oui, que j'entretiens ces histoires qui généralement oui se terminent mal, quoi.
Janvier 1999, j'écris les derniers mots de mon journal après le départ d'Héloïse. Elle ne semble pas vouloir nous quitter. Elle parle de son exposé de cet après-midi, puis de son avenir. Que faire dans la vie? Être écrivain? Faire du cinéma? Bien plus tard, elle s'en va. Un de ces jours, lance-t-elle. Vais-je la revoir? Les reverrai-je, toutes ces femmes dont je parle dans ce journal, qui se finit ce soir? Journaux intimes, impressions intimes, avec Geneviève, Héloïse et Amandine. Remerciements à Philippe Lejeune et à l'Association pour l'autobiographie. Enregistrement Rémi Cousin, Radio France Fréquence Nord. Mixage Gilles Pézra, Pierrick Charles. Journaux intimes, impressions intimes, Christophe Deleu, Anne-Pascale Devigny. Nuit magnétique, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 janvier 1999.